Il est midi 30 sur France Culture, bonjour à tous. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Maëlys Bessery, bonjour à toutes et à tous. Une page se tourne en Grèce où, quand le dégagisme à l'œuvre depuis quelques années en Europe a encore frappé, hier les conservateurs ont largement remporté les élections législatives, anticipé un vote sanction contre le Premier ministre de gauche sortant Alexis Tsipras. Synonyme du retour de la bipolarisation de la vie politique. Un plan social sans précédent dans l'histoire du secteur bancaire allemand, le premier établissement du pays, la Deutsche Bank, va supprimer 18 000 emplois. Son conseil de surveillance a validé hier cette opération qui va coûter près de 7,5 milliards d'euros. Et puis en France, les épreuves de rattrapage du baccalauréat ont démarré ce matin dans une certaine confusion. Et puis à 12h45, Maëlys, ce sera la grande table d'été.
Et oui, nous allons parler de romans américains écrits par des Français en compagnie de Michel Ambarek et de Lionel Salin avant de faire le portrait d'une icône, Marina Vladi.
Merci et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Parce que son échec aux dernières élections, tant européennes que locales, annonçait déjà ce cinglant revers au profit de l'opposition de droite. La sévère défaite hier du Premier ministre grec sortant de gauche ne constitue pas franchement une surprise. Même la photo d'Alexis Tsipras, le bras levé sur ses affiches de campagne, avait été interprétée par certains comme un dernier au revoir. Restait toutefois cet ultime coup de poker qui jusque-là lui avait plutôt réussi à chaque fois qu'il avait dû remettre sa majorité en jeu. L'organisation d'élections anticipées avec l'espoir d'inverser la vague de mécontentement. En vain donc, cette fois-ci, Tsipras a bel et bien perdu son pari au profit du retour aux affaires de la droite traditionnelle. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct d'Athènes. Alors, parce que l'héritage de la crise est aujourd'hui encore loin, très loin même d'être dissipé, la défaite de Tsipras semble démontrer combien son gouvernement sortant est jugé coupable par les électeurs d'avoir trahi ses promesses et notamment d'avoir imposé l'austérité. Sauf qu'assez paradoxalement, la victoire de son adversaire, Kyriakos Mitsotakis, marque non seulement le retour de l'ancien système, ou à tout le moins de la familiocratie, en même temps que du libéralisme économique. Alors, faut-il en déduire que les électeurs n'ont plus de critères idéologiques et votent au fond indifféremment à gauche ou à droite? Comment expliquer en somme, Marie-Pierre, la victoire de cet homme descendant d'une dynastie politique et proche du milieu des affaires?
Eh bien, c'est vrai qu'il a bénéficié du rejet de Syriza, de ce vote sanction contre le Premier ministre Alexis Tsipras, dont les électeurs ont soit choisi l'abstention, soit donné leur voix à de petits partis. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le parti de Yannis Varoufakis, vous savez, l'ancien ministre des Finances d'Alexis Tsipras, qui avait rompu avec fracas pour cause d'austérité, eh bien, son parti fait son entrée au Parlement. Alors, ces désaffections des fidèles de Tsipras ont contribué à amplifier la victoire de Kyriakos Mitsotakis, puisque la loi grecque donne une prime de 50 sièges aux vainqueurs. Mais Mitsotakis a lui aussi réussi à convaincre. Il a mené une campagne de terrain. Il s'est voulu proche des gens, sans arrogance. Il a annoncé un programme clair, de nature à convaincre les électeurs de droite, mais aussi une partie de ceux qui avaient été séduits par les promesses de Syriza, notamment en matière de baisse d'impôts. Il a en effet promis de réduire la pression fiscale, de ramener la sécurité, des priorités qui ont trouvé une vraie résonance auprès d'une population usée par la crise et les affrontements politiques.
Alors la passation de pouvoir à Marie-Pierre entre Tsipras et Mitsotakis doit avoir lieu en début d'après-midi. Le nouveau Premier ministre grec devra ensuite s'atteler à former son gouvernement. Quelles seront ses priorités ?
Eh bien, rassurer à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour cela, il entend aller vite. Il vient de prêter serment ce matin au palais. Un nouveau gouvernement est annoncé pour demain. Premier conseil des ministres a priori ce mercredi et de premières lois au Parlement dès la semaine prochaine. Priorité à la réforme de l'administration afin de rassurer les investisseurs étrangers, à la baisse des impôts pour les entreprises comme les particuliers et puis à la sécurité avec le durcissement du code pénal. Ce devrait être les premiers textes soumis à la voulie, le Parlement grec, cet été.
Merci Marie-Pierre Véraud en direct d'Athènes, ainsi qu'à Éric Audra pour les moyens techniques. Lui a été élu le 20 mai dernier, lui c'est Volodymyr Zelensky, le tout nouveau président ukrainien. Et aujourd'hui, plus que jamais, il devra faire la démonstration qu'il n'a pas été uniquement choisi parce qu'il avait les dons de faire rire ses compatriotes, mais qu'il est bien devenu au fil des semaines un véritable homme d'État qui aspire au sérieux. Cet après-midi, à l'occasion d'un premier sommet à Kiev, Zelensky devra redéfinir rien de moins que les relations de son pays avec l'Union européenne ou comment se rapprocher de l'UE sans aggraver pour autant ses relations avec le voisin russe. Depuis le meurtre en avril dernier à Londonderry d'une jeune journaliste, Lyra McKee, le nom de la nouvelle IRA, ce groupuscule de paramilitaires hostiles aux accords de paix du vendredi saint, était venu réveiller de manière brutale et sanglante les fantômes du conflit nord-irlandais. Or hier, le spectre de la guerre qui, rappelons-le, a fait plus de 3000 morts, a de nouveau ressurgit avec cette fois-ci le défilé de 80 de ses sympathisants en uniforme près de Dublin. Une première depuis 20 ans. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Vous avez pu assister, Antoine, à ce défilé, mais plus encore, vous avez pu rencontrer ces hommes, au visage en partie masqué, qui ne parlent pas aux médias britanniques et appellent de manière extrêmement claire à la reprise de la lutte armée contre le Royaume-Uni. Mais peut-être, Antoine, avant de nous préciser qui ils sont, faut-il rappeler l'objet donc de ce défilé hier à l'ouest de Dublin, autour de la tombe d'un fondateur du courant indépendantiste irlandais.
Oui, absolument. C'est un lieu hautement symbolique, à 40 minutes à l'ouest de Dublin, dans le comté de Kildare, précisément à Buddenstown. C'est là que se trouve la tombe de Theobald Wolfstone, révolutionnaire irlandais du XVIIIe siècle, lieu de pèlerinage traditionnel des indépendantistes. En 1932, par exemple, avant de lancer toute une série d'actions, 15 000 hommes armés s'étaient rassemblés à cet endroit-là. Hier, il n'était qu'un peu plus de 80. En chemise blanche, pantalon noir, chaussures militaires, lunettes fumées, entourées de plusieurs centaines tout de même de sympathisants. Mais ce qui est important, c'est que ces rassemblements en uniforme avaient cessé en 1999, après les accords de paix du Vendredi Saint, signés un an plus tôt. Et c'est la première fois qu'on aperçoit de nouveau des paramilitaires masqués, mais en uniforme, à cet endroit-là.
D'où vient ce mouvement, Antoine? Quelles sont en somme ses racines? Et surtout, pourquoi a-t-il choisi d'être visible aujourd'hui?
C'est un mouvement qui prend un peu d'ampleur parce que le Brexit attire l'attention sur le problème de la frontière irlandaise et que les indépendantistes en profitent pour se faire entendre et pour recruter des jeunes, particulièrement dans les quartiers historiques catholiques républicains, à Derry notamment. Et c'est un mouvement qui est né de la fusion de plusieurs groupuscules clandestins. Ils se sont restructurés en 2012. Ils ont créé un mouvement politique qui est la vitrine politique de l'activité terroriste et qui s'appelle CIRU, qui veut dire libération. CIRU s'est d'ailleurs excusé officiellement lors du meurtre de la journaliste Lyra McKee en avril, mais continue de défendre l'idée d'une lutte armée indispensable pour combattre l'État britannique. Il faut préciser que le Sinn Féin, le parti républicain, et une grande partie des anciens prisonniers ou poseurs de bombes de l'IRA ne reconnaissent pas la légitimité de ce nouveau mouvement, mais il y a eu plusieurs tentatives d'attentats à la voiture et au colis piégé cette année, et la ligne de conduite de ce nouveau groupe armé est claire, quel que soit le prochain Premier ministre en Angleterre, et quelle que soit la forme que va prendre la sortie de l'Union européenne, les actions violentes vont s'intensifier.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. C'était au printemps dernier, lors d'une assemblée générale houleuse, le patron de Deutsche Bank avait promis à ses actionnaires mécontents des coupes drastiques. Et depuis, les salariés de la première banque allemande redoutaient une véritable saignée aussi franche que massive. Hier, au terme de plusieurs semaines de suspense, le couperet a donc fini par tomber. L'ex-fleuron de la finance outre-Rhin a annoncé la suppression de 18 000 emplois, soit une taille de 20% dans les effectifs, une cure d'amaigrissement colossal, donc du jamais vu même dans l'histoire de l'institution vieille de 150 ans. Les précisions à Berlin du correspondant de RFI pour France Culture, Pascal Thibault.
Le courage du désespoir, la journée de l'horreur, la fin d'une errance. Les commentaires de la presse allemande ce matin sont à la hauteur du plan de restructuration inédit de Deutsche Bank. Un cinquième des effectifs doivent être supprimés d'ici 2022. La branche investissement, qui avait explosé durant les trois dernières décennies, pour jouer d'abord avec succès sur la scène bancaire mondiale, va être réduite à la portion congrue après avoir plombé les comptes de l'entreprise. Et une bad bank doit être créée pour se débarrasser dans une filiale d'actifs à risque. Les commentaires ce matin sont tantôt sceptiques, tantôt encourageants. Si ça marche, il y aura à l'arrivée une Deutsche Bank avec un petit dé, écrit un quotidien. Cette césure historique après le grand dessin planétaire marque un retour aux sources pour une banque de près de 150 ans étroitement associée au miracle économique d'après-guerre. Mais comme pour d'autres symboles du Made in Germany traditionnel, le secteur automobile ou le géant chimique Bayer, les déboires d'une institution comme Deutsche Bank viennent illustrer la crise d'un modèle qui aurait du mal à s'adapter.
Malte a annoncé hier que ses forces armées allaient acheminer les 65 migrants se trouvant à bord du navire de l'ONG allemande Alain Kurdi, tout en précisant aussitôt que les étrangers seront tous immédiatement répartis entre différents pays européens. Eux voyageaient dans la remorque d'un camion surchargé hier. 51 migrants sans papier, dont 21 mineurs entassés dans une remorque, ont été arrêtés dans le nord du Mexique. Tous seront renvoyés dans leurs pays respectifs. Une opération qui vient confirmer la décision des autorités mexicaines, sous la menace de sanctions commerciales de l'administration américaine, de durcir sa politique migratoire. Et puis après la publication ce week-end d'un nouvel article de presse dénonçant les conditions infligées aux migrants clandestins, majoritairement des centres américains, parqués à la frontière mexicaine dans des camps de la honte, bondés et où pullulent les maladies, le président Donald Trump, tout en qualifiant ces informations de canulars, a lui annoncé hier que plusieurs de ces centres seraient prochainement ouverts aux journalistes, ce qui n'a pas empêché ce matin encore l'ONU de se dire profondément choqué par les conditions de détention des migrants aux États-Unis. L'édition 2019 du baccalauréat a-t-elle été entachée de fraude ? Seule certitude, elle aura été à tout le moins bousculée par une grève d'enseignants dont certains retiennent toujours ce matin encore des copies ou des notes dans plusieurs académies. D'où la sortie hier du chef de l'État, lequel a qualifié de prise en otage la rétention des copies par des enseignants hostiles à la réforme du lycée, tout en insistant sur un nécessaire sens du devoir en dépit des désaccords. Des propos extrêmement forts donc qui n'auront pas tardé à susciter la polémique. Faut-il parler de prise en otage des bacheliers, de leur famille, quand le président Les Républicains de l'Association des maires de France, François Baroin, estime ce matin que oui. Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES FSU, juge en revanche les mots du chef de l'État déplacés. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors après la publication, c'était vendredi dernier, des résultats du bac dans une certaine confusion, place désormais aux épreuves de rattrapage qui démarrent ce matin. Et là aussi, Hakim, avec une impression de brouhaha.
Et oui, théoriquement, 103 000 candidats doivent passer aujourd'hui leur oral de rattrapage. Mais avec les 10 000 copies manquantes qui arrivent depuis ce matin, les jurys sont littéralement débordés. Résultat, dans certains centres d'examen, les oraux risquent même d'être reportés à demain, le temps de rentrer les notes et du coup d'éviter à certains candidats de passer les oraux pour rien. Saïd Ben Loufoque est professeur de philosophie dans l'Académie de Créteil, gréviste la semaine dernière. Il a bien rendu ce matin ses 120 notes de philosophie dans son centre d'examen au lycée Jean Rostand de Villepinte en Seine-Saint-Denis, où il est également jury aujourd'hui. Seulement 85 candidats sur 500 avaient leurs vraies notes.
C'est beaucoup de travail, c'est un grand capharnaüm, je ne vous cache pas que là c'est vraiment le bazar. Ce matin, on a été convoqués, donc tous les enseignants, on a rencontré le proviseur, et puis il a été convenu que bien nous allons travailler ensemble pour essayer de mettre un peu de clarté dans ce qui se passe, essayer de voir s'il y a des élèves qui ont des notes réelles du baccalauréat qui leur permettent d'éviter le rattrapage, d'autres qui éventuellement auraient été recalés et qui pourraient passer le rattrapage et auquel cas ils seront convoqués. Donc tout ça fait que ce sera difficile de les faire passer après-midi et les oraux seront probablement reportés à demain.
Alors à cela, il faut ajouter des notes inventées. Mon interlocuteur vient de m'envoyer un message à l'instant où il m'expliquait que par exemple un élève qui ne s'était pas présenté à l'épreuve de philosophie avait eu 12, idem en mathématiques où la copie est évaluée à 0 et pourtant ce dernier là aussi s'était retrouvé avec un 12 sur 20. Alors oral de rattrapage ou pas, une fois les épreuves terminées, désormais le bac risque de se déplacer sur le terrain judiciaire pour inégalité de traitement.
Merci Hakim Kasmi. Après des années de combat judiciaire contre ce qu'il considère comme un assassinat, les parents de Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans, se sont résignés ce matin à la mort inéluctable de leur fils. Soulagement en revanche du côté de son épouse au chevet de son mari et laquelle plaidait depuis des années contre tout acharnement thérapeutique. Le gouvernement organisera à partir du mois de septembre prochain un Grenelle des violences conjugales afin de faire émerger de nouvelles mesures censées permettre de faire reculer ce phénomène, ou plutôt ce fléau qui depuis le début de l'année a déjà fait 75 morts des femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
Dans une interview au JDD hier, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, promet donc de tirer de cette vaste concertation des choses concrètes, avec notamment un outil d'évaluation sur le long terme, en l'occurrence le lancement d'une plateforme de signalement.
Oui, donc y a-t-il une véritable volonté politique de lutter contre ces violentes faites aux femmes. Donc ce week-end, il y a eu des milliers de femmes qui se sont retrouvées pour dénoncer les féminicides. Et dans la foulée, la secrétaire d'État Marlène Schiappa a effectivement annoncé ce Grenelle des violences conjugales. Il se déroulera le 3 septembre prochain à Matignon. Elle a rappelé au passage que le président de la République avait été le premier président français à utiliser ce terme de féminicide. Elle a aussi dit que Emmanuel Macron avait fait de cette lutte contre les violences faites aux femmes la grande cause du quinquennat. Alors ce Grenelle contre les violences faites aux femmes, Marlène Schiappa dit le préparer depuis la fin du grand débat. Elle veut tout poser sur la table et mobiliser tout le monde. Les élus locaux, les associations, les victimes, les familles de victimes, mais aussi nous, les médias. La méthode est celle utilisée dans d'autres dossiers, c'est-à-dire la co-construction chère au gouvernement actuel. La secrétaire d'État souhaite donc d'abord une expertise et ensuite une mobilisation générale autour de ces violences.
Est-ce que ça veut dire que d'ici le mois de septembre, c'est-à-dire la mise en place de ce Grenelle, il ne se passera rien ?
Si, puisque dès demain, Marlène Schiappa annonce qu'elle reçoit soit les associations, jeudi les préfets, la semaine prochaine elle organise une réunion interministérielle en vue de ce Grenelle, car ce qu'elle veut c'est arriver le 3 septembre, a-t-elle dit à nos confrères de France Inter, avec des groupes de travail concrets, des mesures fermes et pourquoi pas de nouvelles lois ou des circulaires. Alors du côté des associations on accueille plutôt bien l'annonce de ce Grenelle, mais avec tout de même un peu de scepticisme. Caroline de Haas par exemple du collectif Nous Toutes estime qu'il y a un véritable décalage entre ce Grenelle qui se déroule au mois de septembre et l'urgence de la situation de ces femmes. Pour Caroline Rébi, qui est la coprésidente du planning familial, c'est bien d'être tous autour de la table, mais elle ajoute que le Grenelle ne doit pas être un constat supplémentaire. Puisque l'on sait ce qu'il faut faire, passons à l'action.
Merci Wafia Kenich. On termine avec un mot rapide de météo à l'exception du sud-ouest où l'après-midi sera marqué par des nuages et des orages. Partout ailleurs, le soleil s'imposera. Quant aux températures, elles afficheront entre 20 et 38 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal de la rédaction.